Chapitre 13. Juste à ce moment-là, quelques-uns de ceux qui étaient présents mentionnent le cas de ces infortunés galiléens qui avaient subi la peine capitale sous Pilate. Il leur semblait que ces derniers étaient des pécheurs de la pire espèce. Le Seigneur accuse positivement ses auditeurs d'une culpabilité tout aussi grande et leur déclare qu'eux aussi périraient. Puis il cite encore le cas des 18 victimes de la chute de la tour d'Ensiloé. D'après l'opinion courante, c'était des événements exceptionnels qui indiquaient une iniquité exceptionnelle. Les gens qui l'écoutaient se rendaient coupables d'une iniquité pire encore, parce qu'ils étaient aveugles devant l'occasion qui leur était donnée, et, le rejetant, ils n'échapperaient pas. Il les avertit ainsi du châtiment qui allait venir sur eux. Dans la parabole du figuier se trouve exposée la cause de la rétribution, versets 6 à 10. Dieu était pleinement en droit d'attendre du fruit de la part du peuple. Il en chercha, mais n'en trouva point. Alors, pendant une année, l'arbre allait recevoir des soins. Rien ne serait exigé de lui. Jésus était parmi les siens, leur administrant les soins de la grâce de Dieu au lieu de les placer sous les ultimes exigences de la loi. Si cela restait sans réponse, alors le coup devrait tomber. Dans tout ceci, son enseignement se poursuit depuis la fin du chapitre 12 et il n'y a pas vraiment d'interruption entre les chapitres. Maintenant, au verset 10 à 17, vient l'incident touchant dans lequel est exposé en figure ce que la grâce accomplira là où elle sera reçue. La pauvre femme, quoique courbée et dans son état de faiblesse, faisait partie de ceux qui accomplissaient le service de Dieu dans la synagogue. Sa condition physique symbolisait bien l'état spirituel de maintes personnes chargées de misères spirituelles et accablées sous le joug de la loi, à tel point qu'elles étaient courbées sous son poids, incapables de se redresser et de porter leur regard en haut. Cette femme était une fille d'Abraham, c'est-à-dire une véritable enfant de la foi. Voir Galates 3, verset 7. Pourtant, Satan était pour quelque chose dans son triste état, tirant profit de son infirmité. De plus, le chef de synagogue aurait employé la loi et son rituel pour l'empêcher d'être guéri. Mais le Seigneur écarte tout cela. Il dit une parole, pose les mains sur elle et opère une délivrance immédiate de son infirmité. Nombreux sont ceux qui pourraient dire « Chez moi, c'était la loi, l'infirmité, un esclavage sans espoir, la puissance de Satan. » Jusqu'à ce que Christ intervienne dans la puissance de sa grâce, alors quel changement! Des délivrances telles que celles-ci couvrent les adversaires de honte et remplissent beaucoup d'autres de joie. Ce sont vraiment des choses glorieuses qui étaient faites par lui. À ce point-là, le Seigneur montre que, même si la grâce et la puissance du royaume étaient introduites, il n'en résulterait pas pourtant un état de choses absolument parfait. Les paraboles du grain de moutarde et du levain données ici montrent que, alors que la forme extérieure du royaume connaîtrait une croissance et une expansion extraordinaires, cela s'accompagnerait d'éléments indésirables et même de corruption. Avec le verset 22 de notre chapitre, une transition marquée se produit au point de vue historique. On voit maintenant le Seigneur poursuivre son chemin vers Jérusalem, tout en enseignant par les villes et par les villages qu'il traversait. Mais malgré cela, il ne semble pas qu'il y ait de transition nette dans l'enseignement qui est rapporté. La question au verset 23 semble avoir été suggérée par la curiosité, et en réponse, le Seigneur donne une parole d'instruction et d'avertissement qui est bien en accord avec ce qui vient de se passer. Si la venue de la grâce du royaume allait entraîner un état de choses mélangées, dépeint dans les paraboles du grain de moutarde et du levain, alors il faut que le chemin étroit de la vie soit recherché avec beaucoup de sincérité et de ferveur. Le mot « lutter » du verset 24 ne signifie pas « travail » de quelque sorte que ce soit, mais une ferveur d'une telle intensité qu'elle en est presque douloureuse. C'est comme si le Seigneur disait « Ne ménagez aucune peine pour entrer par la porte étroite tant que l'occasion vous en est offerte. » Beaucoup cherchent une entrée plus large par des choses tout extérieures, comme le verset 26 l'indique. Mais seul comptera ce qui est personnel et spirituel. Il n'y a pas de véritable entrée excepté par le chemin étroit de la repentance. Ainsi, le Seigneur montre à nouveau la futilité d'une religion tout extérieure. Il doit y avoir la réalité intérieure. Les paraboles des versets 18 à 21 montrent qu'il y aura du mélange dans le royaume en sa forme actuelle. Mais le verset 28 montre que, dans sa forme à venir, il n'y en aura pas. Alors les patriarches en feront partie, et ceux dont la religion n'est que formalisme seront jetés dehors. Le verset 29 suggère l'appel des nations qui était imminent, car la grâce allait se répandre dans le monde entier avec des résultats considérables. La grâce, comme nous l'avons vu tout au début de cet évangile, ne peut être confinée dans les limites ou les formes juives. Comme le vin nouveau, elle fera éclater les outres. Le juif était historiquement le premier, mais en présence de la grâce, son légalisme invétéré lui était souvent un obstacle, si bien qu'il arrivait le dernier. Le païen, qui n'est pas entravé de cette manière, arrive le premier, lorsque la grâce entre en scène. Le chapitre se termine sur une note très solennelle. Maintenant ce n'est pas le juif, mais Hérode que le jugement va atteindre. Hérode cachait son animosité avec la ruse d'un renard. Mais Jésus le connaissait à fond. Il savait, d'autre part, que sa propre vie caractérisée par la miséricorde envers l'homme allait trouver sa consommation dans la mort et la résurrection. La haine d'Hérode était cependant une chose de peu d'importance. La grande chose était le rejet, par Jérusalem, de Christ et de toute la grâce qui était en lui. Les Juifs étaient le peuple auquel Dieu s'était adressé par le moyen des prophètes et que maintenant il voulait rassembler par son Fils. L'illustration employée est très belle. Les prophètes avaient rappelé le peuple à ses devoirs sous la loi violée et avaient prédit la venue du Messie. Il était maintenant venu dans la plénitude de la grâce, et le peuple aurait pu trouver protection à l'abri de ses ailes. Tout, cependant, était en vain. Jérusalem se vantait de la merveilleuse maison qui se trouvait au milieu d'elle. Jésus en avait parlé précédemment comme de la « maison de mon Père ». Maintenant il la renie « c'est votre maison » et il la leur laisse désolée et vide. Jérusalem n'avait pas saisi l'occasion offerte et bientôt ne verrait plus son Messie jusqu'à ce que se fasse entendre le cri du psaume 118 verset 26 « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Qui provient de la maison de l'Éternel. Ce n'est pas avant la seconde venue du Seigneur que Jérusalem fera entendre ce cri.